vous écoutez France Culture, il est 18h. L'heure des informations avec vous, Stanislas Vazak.
Bonsoir à tous. Les soldats de l'opération Sentinelle auraient-ils dû intervenir contre les djihadistes du Bataclan? La question est au centre d'un recours administratif contre le ministère de l'Intérieur. Les explications de Bastien Roque dans un instant. Un nouveau retard pour la mise en service de l'EPR de Flamanville. Quelques mois, reconnaît EDF, qui espérait une ouverture du réacteur à la fin de l'année. Des problèmes de soudure sont à l'origine de ce contretemps, nous expliquera Véronique Rebérotte. La visite d'Emmanuel Macron au Nigeria, le président français appelle la jeunesse africaine à croire au développement économique du continent. Le reportage à Lagos de notre envoyé spécial Franck Mathevon. À la fin de ce journal, nous reviendrons sur la disparition de l'écrivain et poète Georges-Emmanuel Clancier, qui avait raconté dans Le Pain Noir l'histoire des paysans et ouvriers du Limousin. Hommage signé Christine Monclat. Pourquoi les soldats de l'opération Sentinelle présents aux abords du Bataclan le 13 novembre 2015 ne sont-ils pas intervenus contre le commando djihadiste? Cette question est au centre du recours déposé ce matin par une trentaine de requérants, victimes ou proches des victimes des attentats de Paris. Tous demandent au tribunal administratif d'établir la défaillance de l'État, en l'occurrence celle du ministère de l'Intérieur. C'est un reportage de Bastien Roque.
Comment le passeport d'un terroriste confisqué par la justice française a-t-il pu être réimprimé par l'administration? Comment des fichiers ont-ils pu se procurer des armes? Et surtout, pourquoi les militaires présents sont-ils restés bloqués à l'entrée du Bataclan? Voilà les questions soulevées par l'avocate Samia Maktouf. Elle défend la plupart des victimes à l'origine de ce recours. Pour elle, l'État doit assumer ses responsabilités.
Beaucoup de zones d'ombre persistent, à la différence de ce qui a été dit en 2012 lors de l'affaire de Mohamed Merah. On méconnaissait les attentats, on méconnaissait les profils terroristes. Aujourd'hui, il n'est plus question. C'est un discours qui ne peut pas être aujourd'hui accepté, non seulement par l'opinion publique, mais encore plus par les victimes.
Au centre du dossier, l'inaction des militaires de la force Sentinelle présents sur place. En tant que membres de l'armée, interdiction formelle pour eux d'intervenir à l'intérieur du territoire français. Un argument balayé par l'avocate des victimes et de leurs familles, pour qui ces soldats ne dépendaient pas alors de l'armée.
Les militaires étaient sous les instructions du ministre de l'Intérieur. Et la question qui est posée aujourd'hui au tribunal administratif, c'est d'expliquer pourquoi ces forces Sentinelle ont eu instruction de ne pas bouger, de ne pas intervenir à quelques pas du lieu où une scène de guerre se déroulait.
L'objectif affiché de ce recours est donc d'obtenir des réponses, y compris sur l'efficacité réelle des forces Sentinelles. Pour l'instant, l'affaire est mise en délibéré. La décision sera rendue le 18 juillet.
Bastien Roque, merci. Dans le djihad contre la France, il y a les soldats et les propagandistes. Le belgo-tunisien Farouk Ben Abbès est soupçonné d'appartenir à cette deuxième catégorie. Le procès de cette figure de l'islam radical a débuté aujourd'hui à Paris, devant le tribunal correctionnel. Ben Abbès accusé d'avoir administré un site djihadiste de référence, Ansar al-Haq, véritable incitation au djihad. Il y a au total 4 prévenus dans ce dossier et la première journée a été consacrée à des questions de procédure, Florence Turm.
Ils ne sont que 3, dont Farouk Ben Abbès, à comparaître libre, assis au premier rang de la salle, face au tribunal. Le 4e prévenu, Léonard Lopez, a enfreint son contrôle judiciaire pour partir en 2015 à Mossoul avec sa femme et leurs 2 enfants, un 3e est né sur place. Léonard Lopez, actuellement détenu par les autorités kurdes dans la province du Rojava en Syrie, aujourd'hui son avocat tente d'obtenir le renvoi de l'audience car son client veut, bien sûr, dit-il, rentrer sur le territoire français. Argument balayé par le procureur comme une véritable provocation, la justice lui a fait confiance, il en a profité pour partir, curieuse inversion des responsabilités et demande rejetée par le tribunal qui rejette également la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les avocats de Farouk Ben Abbès. Elle porte sur l'association de malfaiteurs, un sujet récurrent dans tous les dossiers liés au terrorisme, très présent notamment lors du procès d'Abdelkader Merah en novembre dernier. L'association de malfaiteurs, une notion introduite en 1996 dans le code pénal, est dénoncée comme une infraction fourre-tout par de nombreux avocats et juristes. On se borne, explique en substance maître Vincent Bringart a caractérisé une entente, mais pas des faits matériels. La QPC ne sera donc pas transmise et les débats sur le fond n'ont pas encore commencé. Considéré comme une figure de la mouvance islamiste radicale depuis de nombreuses années, Farouk Ben Abbas sera entendu demain après-midi.
Florence Thion depuis le nouveau palais de justice de Paris. L'actualité économique, les années passent et l'EPR de Flamanville ne fonctionne toujours pas, malgré les calendriers optimistes donnés par les gouvernements successifs. EDF reconnaît aujourd'hui un nouveau retard dans la mise en service du réacteur nucléaire, quelques mois supplémentaires par rapport à la dernière date d'ouverture prévue, à savoir fin 2018 ou début 2019. Il faut rappeler que la fermeture programmée de la centrale de Fessenheim est subordonnée à la mise en production de l'EPR de Flamanville. Bonsoir Véronique Reverotte.
Bonsoir.
Et ce nouveau contretemps est dû officiellement à des problèmes de soudure.
Des problèmes de soudure sur des tuyauteries de circuits d'eau secondaires de l'EPR de Flamanville. Ils ont été repérés il y a plusieurs mois maintenant. Des soudures de qualité inférieure aux critères définis par l'opérateur EDF lui-même, qui avait alors mis en cause le travail réalisé par des sous-traitants. En avril dernier, il était annoncé que ces problèmes de soudure seraient peut-être à l'origine d'un éventuel retard supplémentaire. Ce n'est plus peut-être. EDF confirme donc que ces défauts de soudure auront bien un impact sur la mise en service du réacteur nucléaire en construction. Sans plus de précision, il est trop tôt, dit le directeur de chantier, pour caractériser cet impact sur le planning du projet EPR, un chantier qui accumule les retards depuis toujours. Est-ce que ce sera cette fois quelques mois supplémentaires ou deux ans, comme croit le savoir Yannick Rousselet, le représentant de l'ONG Greenpeace, assisté aujourd'hui à cette commission locale d'information près de Flamanville, réunissant EDF, autorités de sûreté, élus, syndicats et associations, où ce nouveau retard a donc été annoncé. L'EPR, c'est à ce jour 7 ans de retard pour sa mise en service et un coût officiel réévalué en 2015 à 10 milliards et demi d'euros, le triple de son budget initial. Un retard, vous l'avez dit, qui repousse d'autant la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim, conditionné au démarrage donc de l'EPR de Flamanville. Ce ne sera pas en tout état de cause à la fin de cette année ou début de l'année prochaine, au mieux maintenant dans un an, été 2019.
Véronique Reberotte, à Paris, les constructeurs automobiles sont prêts à prendre la relève d'Autolib. Le service mis en place par la ville avec le groupe Bolloré va s'arrêter à la fin du mois, faute d'un accord entre les deux parties. Du coup, Renault et PSA en profitent pour s'implanter sur le marché des voitures électriques en autopartage. Mélodie Pépin, bonsoir.
Bonsoir.
Les deux constructeurs qui annoncent chacun un service d'autopartage, mais avec un modèle économique différent de celui d'Autolib.
La mairie de Paris ne veut plus entendre parler de délégation de services publics et de factures à payer. On passe à une licence annuelle, 300 euros par voiture par an, pour pouvoir rouler et stationner dans Paris, à condition qu'elle soit électrique. Une fois ce forfait payé, PSA et Renault vont pouvoir lancer la compétition. 500 voitures électriques pour PSA, 2000 pour Renault courant 2019, qui propose trois services, une offre VTC, une offre de véhicules en boucle, on prend et on remet dans des parkings, et une offre flottante du libre-service partout en Ile-de-France, sans station. Un service déjà proposé à Madrid depuis un an. Est-ce rentable? On a posé la question à Thierry Bolloré, le directeur adjoint du groupe Renault.
La réponse est oui, c'est-à-dire qu'en fait, nous sommes robustes et durables. Derrière le thème durable, c'est qu'on fait des bénéfices. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de la mobilité électrique en disant « mais ça va diluer nos résultats économiques ». Ce n'est pas notre cas. L'organisation de grandes masses de véhicules, c'est notre métier, nous savons le faire. Et c'est la raison pour laquelle, à la fois l'étendue du territoire comme la croissance de la demande, ça ne nous fait pas peur.
L'autopartage n'attire pas que les constructeurs. ADA, la filiale des taxis G7, veut mettre une cinquantaine de voitures en route cet été. Mais la mairie de Paris le répète, il faut réguler pour éviter la saturation. C'est pour ça qu'elle veut nouer des alliances comme avec Renault. Elle mise sur 20 000 véhicules au total, 5 fois plus que les Autolib.
Mélodie Pépin, merci. Un calme précaire est revenu à Nantes après les violences urbaines survenues hier soir dans 3 quartiers réputés sensibles de la ville. À l'origine de ces incidents, la mort d'un jeune homme de 22 ans, délinquant en fuite qui avait voulu se soustraire à un contrôle de police. Il avait blessé un CRS avec sa voiture. C'est là qu'un autre CRS a tiré. Le jeune homme a succombé à ses blessures à l'hôpital. Cette affaire repose la question de la légitime défense, dont peut se prévaloir un policier comme un simple citoyen. Et de ce point de vue, la loi a évolué en février 2017. Écoutez l'analyse d'Olivier Kahn, maître de conférence en droit pénal à la faculté de Cergy-Pontoise.
La demande est c'était une demande de la police nationale parce qu'il y avait dans le code de la défense une définition précise pour les gendarmes qui prévoyait donc toute une série de possibilités d'exercice de la légitime défense et elle ne s'appliquait qu'aux gendarmes. Il y avait donc une demande des policiers pour disposer du même texte que les gendarmes. En fait, il est prévu donc que lorsque on se retrouve confronté à une atteinte dirigée contre soi-même ou contre autrui, on va pouvoir riposter, mais de manière strictement nécessaire et proportionnée. Et évidemment, par rapport à ce qui s'est passé cette nuit, ce sera la question essentielle de vérifier si on estime ou non que la réaction du policier, c'est-à-dire sortir son arme et tirer sur la personne qui venait manifestement de percuter un autre fonctionnaire, si cette réaction était nécessaire et proportionnée. C'est extrêmement délicat, c'est à l'appréciation des juges en fonction des conditions posées par le code de la sécurité intérieure, mais aussi et surtout de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme fondée sur l'article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui protège le droit à la vie.
Olivier Kahn de la faculté de droit de Cergy-Pontoise, il répondait à Boris Loumagne. Emmanuel Macron appelle les Africains à réussir en Afrique. Le président français qui est au Nigeria où il a rencontré cet après-midi 300 jeunes entrepreneurs. Pour le chef de l'État français, aucun doute, il y a en Afrique des opportunités économiques suffisantes pour dissuader les jeunes Africains d'émigrer en Europe. Le reportage à Lagos de Franck Madvon.
2000 jeunes entrepreneurs locaux écoutent les conseils du président français.
There is no advice.
Pas de conseils, c'est le premier d'entre eux, dit celui qui a souvent refusé d'en suivre.
Take your risk.
Prenez des risques. Emmanuel Macron encourage les Africains à travailler et investir en Afrique. Doper l'économie du continent pour limiter les flux migratoires. L'Europe, dit-il, remplira son rôle pour les réfugiés, mais pas pour les migrants économiques. Cela, étant donné l'ampleur de la vague migratoire, ne peuvent être acceptés. Emmanuel Macron reprend son discours controversé de l'an dernier sur la démographie. Désolé de le dire, mais quand on a 7-8 enfants par femme, on a beau avoir une croissance de 5%, on ne gagne pas la bataille contre la pauvreté. Applaudissements timides, mais dans l'ensemble, les jeunes Nigérians apprécient le discours du français. Olabi, qui vient de créer une start-up, ne pensait même pas qu'Emmanuel Macron viendrait au Nigeria. Quand on m'en a parlé, j'ai dit « Vous êtes sérieux ?» Sur l'immigration, il a raison, il ne faut pas quitter ce continent, c'est assez pour nous. On a le marché, les gens, les produits, inutile de quitter nos pays. Pour Emmanuel Macron, si l'Afrique réussit, l'Europe réussira aussi.
Franck Matevon, envoyé spécial de France Culture au Nigeria. Le mystère au Royaume-Uni après l'hospitalisation d'un couple victime d'une substance inconnue. L'homme et la femme ont été retrouvés dans un état critique dans une maison d'Amsbury près de Salisbury. C'est à Salisbury justement que l'ex-espion russe Sergueï Skripal et sa fille Yulia avaient été empoisonnés. Ils sont aujourd'hui tirés d'affaire, mais Londres avait pointé du doigt la Russie de Poutine dans ce dossier. On va terminer ce journal par un hommage à Georges Emmanuel, le clan l'écrivain et poète Limougeau, qui est mort la nuit dernière à Paris à l'âge de 104 ans. Clancier est surtout connu pour son roman Le Pain Noir, publié en 1956 et porté à l'écran par Serge Moati en 1974. Bonsoir Christine Monclat.
Bonsoir.
Ancien résistant, journaliste, Georges-Emmanuel Clancier avait consacré une bonne partie de son œuvre à l'histoire paysanne et ouvrière du Limousin.
Oui, même si c'est à Paris qu'il vivait depuis plus de 50 ans, c'est en effet cette étiquette de témoin littéraire des campagne qu'il ne reniait pas du tout d'ailleurs, qui est aujourd'hui mise en avant, car Clancier puisait dans ses racines rurales paysannes l'humanité et l'humilité de son œuvre et de sa vie. Sa fresque romanesque la plus célèbre, en effet, Le Pain Noir, s'inspire ainsi de la vie de sa grand-mère bergère et illettrée dont il dira qu'elle lui avait appris à vivre. Alors pour autant, Georges-Emmanuel Clancier est avant tout un poète à portée bien plus universelle, lauréat du Goncourt de la poésie d'ailleurs, un poète dans les mots et dans l'âme, profondément marqué par les guerres. Né à l'aube de celle de 14-18, traumatisé par celle d'Espagne, la mort du poète Lorca signe le glas de ses utopies d'adolescent, dit-il. Et puis, résistant pendant la Seconde Guerre mondiale, il fut correspondant clandestin de la revue Fontaine, dirigée par son ami Max-Paul Fouché. Cette période de résistance résistance. Il l'a d'ailleurs raconté avec humilité toujours dans ses mémoires dont il a publié le 4e et dernier tome à l'âge de 102 ans. C'était donc en 2016, il y a 2 ans. Il disait alors « Je me prépare sans crainte à la mort, d'autant que je ne crois pas en Dieu. Si d'ailleurs il existait, ce serait le diable. »
Christine Moncla, merci. On termine ce journal avec la météo. Demain, météo toujours instable avec des orages marqués sur le nord-est. Ciel perturbé également sur une large moitié nord. Ailleurs, le soleil devrait s'imposer, mais avec un ciel souvent variable. Les températures minimales de 13 à 21 degrés. Les maximales sont en baisse de 21 à 32 degrés du nord au sud. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun.